En tout cas, c'est une joie pour Luc et moi d'être de nouveau parmi vous et nous nous réjouissons déjà de ce que nous avons reçu, pu chanter, pu proclamer. Je trouve que c'était déjà très riche par rapport à ce que Christ a fait, à son œuvre. Et je vous invite à poursuivre dans la méditation de la parole, en particulier sur ce que Jésus est pour nous, ce qu'il fait pour nous et comment il nous accompagne sur ce chemin de la vie. Est-ce que vous vous êtes déjà senti nul? Vous souvenez-vous de situations où vous auriez aimé vous retrouver dans un trou de souris tant vous sentiez honteux? Avez-vous déjà voulu impressionner votre patron ou un de vos professeurs? Sûr de vous, vous fanfaronnez, vous voulez lui en mettre plein la vue. Et puis, comme on dit, c'est le retour de manivelle ou de bâton. Votre tentative de vous faire bien voir échoue lamentablement et vous n'avez qu'une idée, disparaître dans la honte et la crainte de ce que vous avez fait. Lorsqu'on lit les textes de la Passion de Jésus dans les Évangiles, nous constatons que les disciples n'ont pas eu une attitude très glorieuse lors de l'arrestation et de la mort de Jésus. Dans la chambre haute, lors du repas de la Pâque, dans l'intimité de leur cercle d'amis, en sécurité avec Jésus, ils se sentaient forts, invincibles, ils étaient prêts à tout pour Jésus. Mais une fois Jésus arrêté, comme lui-même l'avait prédit, c'est la débandade, la fuite, le reniement. Et puis voilà, le plus extraordinaire des événements est arrivé. Jésus est ressuscité. Leur ami, leur maître est revenu à la vie. Lui, qu'ils ont abandonné au pire moment, est de nouveau là, bien vivant. Comment vous sentiriez-vous à leur place? La Bible nous parle de leur joie, mais aussi de leur étonnement et de leur incrédulité par moments. Et je pense qu'il devait y avoir aussi une part de honte, de crainte. Que va-t-il arriver maintenant? Tout peut-il redevenir comme avant? Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 19. Quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, » dirent-ils. Et voilà parti. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, » répondirent-ils. « Jetez le filet du côté droit du bateau, » leur dit-il alors, « et vous en trouverez. » Le filet, ils ne peuvent plus le remonter tellement il y avait du poisson. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau et remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, » leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Ce texte de Jean 21, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve qu'il est un des plus émouvants de la Bible. C'est un texte d'espérance qui nous montre le cœur de notre Dieu, un Dieu de grâce et de restauration. Le texte se présente en gros en deux parties, enfin il y a à peu près deux parties. D'un côté la pêche miraculeuse et puis ensuite l'entretien de Jésus et de Pierre. Alors dans un premier temps, nous voici en Galilée, au bord du lac de Tibériade. On lit en Matthieu 28 que Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples dans son jardin. Alors la Galilée, c'est le lieu où Jésus a commencé son ministère. Nous revenons un peu au début de l'aventure ou de l'histoire. Et nous ne sommes pas n'importe où en Galilée. Nous sommes au bord du lac de Tibériade. Pierre, Jacques et Jean sont retournés chez eux, ils ont repris leur activité habituelle, la pêche à l'initiative de Pierre, qui dit aux autres, « Je m'en vais pêcher, alors on y va avec toi. » Cela donne un peu l'impression d'un retour à avant les 3 ans passés avec Jésus, avant l'appel à le suivre. Tout est fini. Pourtant, ils savent que Jésus est ressuscité. Attendent-ils quelque chose ? Jésus semble l'avoir exprimé. Mais voilà, ils retournent à leur pêche. Et cette nuit de pêche est infructueuse. Ils n'ont rien pris. Et voilà que, comme Jésus l'avait fait 3 ans auparavant, un inconnu leur demande de jeter leur filet. Et comme 3 ans auparavant, le filet se remplit de tant de poissons qu'il menace de craquer. En voyant cela, verset 7, Jean, le disciple que Jésus aimait, comprend tout de suite, c'est le Seigneur. Jésus, je pense, leur a sans doute volontairement donné rendez-vous là où il avait appelé Pierre, Jacques et Jean à le suivre. Là où il leur avait dit d'abandonner leur métier de pêcheurs de poissons pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Jésus n'utilise pas les « je vous l'avais bien dit » ou « vous m'avez déçu » sans reproche. Jésus leur rappelle peut-être en quelque sorte, ou à ce moment je pense, qu'ils avaient reçu un appel, une mission. Mais que cette mission, elle a été interrompue lamentablement par leur fuite et leur peur. Imaginons, ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont mal agi et ont abandonné Jésus. Alors Jésus, par cette nouvelle pêche miraculeuse, leur montre qu'il leur pardonne et les rétablit dans leur mission. Jésus manifeste combien il est rempli de compassion, tout en confrontant ses disciples à la réalité de leurs actes. Quel patron humain ferait de même avec un employé qui a abandonné son poste? Et dans nos églises, lorsque quelqu'un faillit, manque à sa mission, comment agissons-nous? Je pense que Jésus nous donne là un exemple de grâce et de pardon, sans mettre sous le tapis. Au verset 10, Jésus invite ses disciples à manger. Alors on peut aussi là n'y voir qu'un moment tout simple de la vie quotidienne. Quoi de plus ordinaire que de manger sur la plage du poisson et du poisson qu'on vient de pêcher et qu'on l'accompagne de pain. Mais dans l'évangile de Jean, les choses ne sont jamais toutes aussi simples et souvent Jean a vraiment un message à faire passer. Alors nous pouvons nous souvenir par exemple que l'évangile de Jean, c'est l'évangile de Jésus, le pain de vie. La nourriture que Jésus donne ici aux disciples est plus que physique. Il leur rappelle que c'est de sa vie qu'ils vont tirer la force de servir et d'accomplir leur mission. Il le dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les disciples, fanfaronnants et prêts à tout lors du dernier repas, apprennent la leçon. Ils ont besoin de Jésus, leurs propres forces ne suffiront pas. Et on peut penser aussi à la multiplication des pains et des poissons. Jésus oriente leur regard vers lui, le pain de vie, le Dieu d'abondance, qui peut faire fructifier nos plus humbles possibilités. Alors, dans un deuxième temps, après le repas, Jésus va s'adresser en particulier à Pierre. C'est un moment attendu peut-être. Pierre le fougueux, l'amoureux de Jésus. Pierre a renié son maître. Pierre a pleuré des larmes amères. Mais Pierre ne s'est pas enfui. Contrairement à Judas qui a fui dans la mort, Pierre, malgré son reniement, s'est précipité au tombeau pour constater que le corps de Jésus avait disparu. Mais quel sentiment l'animait ? Redoutait-il le moment des retrouvailles ? En tout cas, lorsque Jean reconnaît Jésus et dit dans le bateau « C'est le Seigneur », Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dépêche de sauter à l'eau avec sa foule habituelle, il saute à la rencontre de Jésus. Je trouve très beau cette attitude, il ne fuit pas. Souvent, quand nous avons péché, nous avons honte. Nous savons que nous sommes éloignés de Dieu et nous voulons plutôt nous cacher comme l'ont fait Adam et Ève. Pas Pierre. Il sait que Jésus est la réponse. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle », a-t-il dit. Mais si Pierre aime toujours autant son maître, il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Alors après le repas, il y a cet entretien en tête à tête, peut-être avec les disciples autour quand même, on ne sait pas. Mais il s'adresse à Simon-Pierre et pose la question « M'aimes-tu ?» trois fois. Alors la première fois, verset 15, c'est « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?» Sous-entendu, j'imagine, Pierre, es-tu toujours ce fanfaron qui se croit meilleur et plus malin que les autres, celui qui clamait « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » L'amour de Pierre est-il toujours marqué par les travers si humains de la comparaison, de l'orgueil, de la satisfaction ? Ne sommes-nous pas trop souvent au fond de nous-mêmes, sûrs de nous, de nos forces, de nos dons, même si nous prétendons le contraire, par humilité. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous allons rencontrer des murs, des épreuves douloureuses qui vont nous blesser et nous remettre en question. Et parfois, ces murs sont eux-mêmes le fruit de notre propre orgueil, de notre péché. Nous avons abandonné le Seigneur. Dans ces moments, Jésus nous invite à revenir vers lui et nous demande « M'aimes-tu ? » La vraie question n'est pas « m'aimes-tu plus que ?» Mais comme Jésus le demande une deuxième fois à Pierre, c'est « m'aimes-tu ?» Et comme la première fois, Pierre répond, vous avez remarqué, la première fois, il n'a pas répondu « je t'aime plus que ?» Je crois qu'il a compris la leçon. Il répond « oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Tu connais. » Pierre, il sait bien que Jésus sonde les cœurs et voit au-delà de nos masques, de nos hypocrisies. Il n'est pas impressionné par nos grandes déclarations, nos belles actions ou nos chants d'adoration, d'engagement. Si cela ne vient pas d'un cœur profondément attaché à lui, il le sait. Et Pierre le sait aussi. Son amour pour Jésus est maladroit, faillible, mais il est réel. Et vient le troisième « m'aimes-tu ?». Il est dit, verset 17, que Pierre fut peiné, que Jésus lui pose la question trois fois. Je peux imaginer que Pierre a ressenti comme un coup de poignard dans le cœur ces trois « m'aimes-tu ?», parce qu'il a trois fois renié son maître. Et là, en plus, ils sont près d'un feu de camp, comme dans la cour du Sanhédrin. Le soir où Pierre a prétendu ne pas connaître Jésus. Quel douloureux rappel. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Tu sais que je t'ai renié. Tu sais aussi que j'ai pleuré sur moi-même, que j'ai tellement honte. Mais tu sais aussi que je t'aime. Jésus, plein de compassion et de tendresse pour Pierre, lui donne l'occasion à ce moment de confronter la réalité de ce qu'il a fait, de ne pas mettre sous le tapis, enfin comme si rien ne s'était passé, et faire comme si, mais d'oser affronter ce qui est le plus grand échec de sa vie, certainement. Je pense au chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. » Lors de notre conversion, lorsque nous décidons de mettre notre foi en Jésus, le Sauveur, et d'en faire le Seigneur de nos vies, une nouvelle vie commence, nos péchés sont effacés, on repart à zéro. Et je crois parfois, il ne faut pas trop vite repartir à zéro, il faut aussi prendre le temps de poser ces choses. Mais ensuite, sur le chemin à la suite du Christ, nous allons chuter, échouer, désobéir. Et nous aurons besoin de ces moments où dans un tête-à-tête avec Jésus, nous dirons « Oui, tu sais tout. Tu sais que j'ai mal fait, que j'ai pas réussi à t'aimer, à aimer mon prochain, à vivre une vie qui t'honore. Alors je viens recevoir de toi le pardon et la restauration, être délivré de ce fardeau et repartir avec toi sur le chemin. » Dans l'épître de Jean, au premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » M'aimes-tu ? Nous dit le Seigneur ce matin. Alors l'objectif de Jésus, dans son entretien avec Pierre, et ça c'est très beau, ne s'arrête pas à la restauration d'une relation brisée. Aux trois réponses de Pierre à la question de Jésus, Jésus donne ensuite un ordre à son disciple. « Prends soin de mes brebis. » Non, je vais... Bon, je reviens. Je suis trop tôt. Merci.
Tu peux y aller avec les flèches.
Ouais, mais j'arrive pas avec les flèches. Voilà. Encore une. J'ai été trop vite. Voilà. Prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Pierre n'est pas seulement restauré dans sa relation avec Jésus, mais il est également restauré dans son appel. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Le chemin que Pierre a dû traverser a fait de lui certainement un berger plus compatissant, mieux à même de comprendre les plus vulnérables et les plus faillibles, mais aussi un berger plus dépendant du Seigneur. Je pense vraiment que Dieu a besoin de disciples humbles, conscients de leurs manquements, qui pleurent parfois sur leurs défaillances, parce qu'alors ils ne peuvent plus compter que sur lui. Paul dit aux Romains en Romains 14, versets 7 et 8, « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. » S'il est important pour Dieu que nous soyons pardonnés, purifiés de nos fautes, ce n'est pas le seul objectif de notre vie. En devenant chrétiens, nous ne sommes pas juste sauvés de nos fautes pour avoir la vie éternelle. Nous entrons dans une nouvelle vie, un nouvel appel, comme Pierre. Alors nous ne sommes pas les apôtres, mais nous avons aussi un appel. Comme chrétiens, notre perspective sur la vie, sur le monde change. Nous mettons les lunettes de Dieu. Aimer Jésus, c'est vivre la vie qu'il nous offre, une vie à son service et au service du prochain, une vie décentrée de nous-mêmes. Et nous devenons co-briller avec Dieu pour être les témoins de ce qu'il veut accomplir dans ce monde. Mais comme Jésus nous l'avait promis, ne nous laisse pas seuls pour cette mission. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, vient habiter en nous pour nous donner force, sagesse et amour pour l'accomplir. Et nous le verrons très concrètement, à la Pentecôte, dans la vie de Pierre. Sa mission commence lorsqu'il lui a confié de la prédication à la Pentecôte. Revêtu de la puissance de l'Esprit, Pierre prend la parole à Jérusalem et prononce cette prédication qui va aboutir à la conversion de 3000 personnes. Il est pleinement restauré et avec la force du Saint-Esprit, il peut aller de l'avant. Cette mission ne va pas toujours être un chemin facile. Jésus annonce à Pierre qu'il va mourir martyr, souffrant pour la cause du Christ, versets 18 et 19. Au moins, avec Jésus, on n'est pas pris par surprise. Si la vie de disciple est difficile, il nous le dit tout au long des évangiles et les apôtres le réaffirment dans les épîtres. Alors, la pédagogie de Jésus dans ce temps de restauration de ses disciples et de Pierre en particulier est magnifique et bouleversante. Notre Seigneur ne veut pas nous laisser dans nos misères et nos échecs, mais comme un Père plein d'amour, il veut nous aider à reprendre la route lorsque nous nous sommes arrêtés. Et malgré tout ce que nous sommes, nos fragilités, nos désobéissances, nos reniements, il continue à faire de nous ses co-ouvriers pour l'avancement de son règne. N'est-ce pas extraordinaire? Pour conclure, quelques questions de réflexion. Vivons-nous dans la honte d'un péché, d'un échec, d'un reniement? Croyons-nous que Jésus soit prêt à nous pardonner si nous venons simplement et humblement à lui? Laissons-nous Jésus nous reprendre lorsque nous nous sommes éloignés? Pardon?
Nous rejoindre.
Oh là. Il peut nous reprendre aussi. Mais j'allais inviter, et peut-être les frères et sœurs de l'Église.
Non,
c'est vrai. Mais je pense que je suis un peu l'esprit ailleurs. On discute de ça en ce moment. On va en discuter après. Laissons-nous Jésus nous rejoindre lorsque nous nous sommes éloignés de lui et nous reprendre, c'est vrai. Sommes-nous prêts à vivre ces moments difficiles, douloureux parfois, sachant que c'est le chemin de la restauration et de la bénédiction spirituelle? Et sommes-nous prêts à vivre selon cette perspective, au détriment peut-être parfois de notre confort et de nos propres projets? Voilà quelques questions qu'on peut méditer pour ces jours prochains. Je vous propose déjà conclure par un temps de silence, que nous puissions déjà peut-être y réfléchir, et puis je terminerai par la prière. Seigneur, ce matin, si À chacun de nous, tu poses cette question, m'aimes-tu? Je pense que la plupart d'entre nous, nous te répondrions oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime, que nous t'aimons. Tu le sais. Mais tu sais aussi tout ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Tu sais, voilà, ce que peut-être nous cachons aux autres. Peut-être ce qui est tellement évident aussi dans nos vies et qui n'est pas ce que tu attends de nous. Mais merci parce que, comme tu l'as fait pour les disciples et pour Pierre, tu es un Dieu de grâce et de restauration. Un merveilleux sauveur, consolateur qui nous relève, qui nous pardonne et qui nous restaure pour que nous puissions continuer à te suivre et à accomplir la mission que tu nous as confiée. Seigneur, merci parce que nous n'avons pas besoin d'être arrêtés par nos échecs, par nos manquements. Mais parce que, Seigneur, en toi, il y a la libération, on l'a chanté, tu nous libères de nos chaînes, Seigneur. Alors que vraiment, ce matin, personne ne puisse rester loin de ton pardon, de ta restauration. S'il y a des chaînes qui sont encore là, qui enserrent et qui lient, Seigneur, que la personne qui en souffre, ou peut-être même les chaînes qu'il peut y avoir dans une communauté, Seigneur, que ces chaînes, on puisse vraiment venir à toi et que toi, tu les brises, Seigneur, et que tu restaures et que tu pardonnes, parce que tu es vraiment notre Dieu de grâce et de compassion. Loué sois-tu, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as vaincu le péché, mais aussi les puissances du mal, et que nous avons en toi la liberté et le pardon. Que ton nom soit béni. Amen.